Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François veut approfondir le rôle des femmes au sein de l'Église, mais il rejette leur ordination sacerdotale. Il condamne les lobbies en général, il n'a rien trouvé sur le lobby gay au Vatican et estime qu'il ne lui revient pas de juger les homosexuels, y compris dans l'Église. Il aime beaucoup Benoît XVI, mais pas trop les jeunes qui ne protestent pas. Dans l'avion qui le ramenait à Rome, le Saint-Père a répondu à toutes les questions que lui posaient les journalistes et c'est bien sûr la une de ce magazine. Nous reviendrons par ailleurs largement sur le voyage du pape François au Brésil et sur les 28e journées mondiales de la jeunesse qui se sont achevées dimanche. Le cardinal Bergoglio n'aimait pas les interviews. Le pape François les jugeait un peu pénibles la semaine dernière dans l'avion qui le conduisait à Rio. Et pourtant, ce lundi, il a passé 1h20 à répondre aux questions des journalistes. Le souverain pontife a parfois pris le temps avant de parler, mais il n'a évité aucun des sujets, des plus intimes comme ses rapports avec Benoît XVI ou sa vie au Vatican, aux plus polémiques comme le lobby gay, la réforme de la curie et de l'IOR ou le rôle des femmes dans l'Église. Marie Duhamel.
Les mots sont du pape. En premier lieu, il y a le problème du IOR. Que cela devienne une banque, un fonds d'aide ou autre chose, le pape dit faire confiance au personnel de l'Institut, aux commissions qui réfléchissent à son avenir. Ce qui compte, dit-il, c'est la transparence et l'honnêteté. François pensait traiter la question économique plus tard, mais clairement, dit-il, l'agenda a changé. Le pape mentionne ainsi Mgr Scarano, l'ancien comptable de l'administration du patrimoine du Saint-Siège, arrêté au mois de juin. Ce monseigneur en prison, ces scandales qui font mal, soulignant tout de même qu'il y a des saints dans la curie, des gens qui prient, qui travaillent beaucoup, qui vont aussi à la rencontre de pauvres discrètement. Interrogé sur son rapport avec Benoît XVI, le successeur du pape émérite parle d'un grand homme de Dieu, de prière. C'est comme avoir un grand-père à la maison et quand je suis allé lui parler de Vatilix, il m'a tout dit avec grande simplicité. À l'époque, on s'en souvient, le scandale des fuites avait poussé un peu plus à une réforme de la curie. François le confirme, en mars dernier, les cardinaux attendaient cette réforme du nouveau pape élu. Pour l'instant, pas de résistance, dit François, qui glisse qu'il souhaiterait toucher au secrétariat du synode, renforcer les consultations et organiser des consistoires moins formels. Autre sujet brûlant pour les médias concernant la curie, le lobby gay, le pape affirme ne pas l'avoir trouvé. Il s'est contenté de condamner les lobbies, quels qu'ils soient, ainsi qu'une marginalisation des homosexuels, plaider en revanche pour leur intégration dans la société. Nous sommes des frères. Sur les femmes, François insiste sur leur rôle dans l'Église. Ce n'est pas que la maternité, c'est celui de l'icône de la Vierge, celle qui aide à faire grandir l'Église. Pas question pour autant d'envisager leur ordination. Jean-Paul II l'a dit en une formule définitive, cette porte est fermée. Et puisqu'on parle du pape polonais, avec Jean XXIII, tous deux pourraient être canonisés en avril 2014 et non plus le 8 décembre prochain, car, affirme le pape dans un sourire, certains Polonais ne sont pas riches, ils prendraient l'autocar. Or, en décembre, les routes polonaises sont souvent gelées.
Interrogé sur la question des divorcés remariés, le pape François a souhaité qu'une réflexion se poursuive dans le cadre de la pastorale du mariage que les 8 cardinaux qu'il a nommés pour le conseiller doivent porter de l'avant. Aujourd'hui est venu le temps de la miséricorde, un changement d'époque, a-t-il dit. Les divorcés peuvent communier, c'est la question des secondes unions qui pose problème. Il en sera question lors du prochain synode des évêques. Le pape François est donc rentré à Rome au terme d'un voyage d'une semaine au Brésil, au cours duquel il a présidé les 28e journées mondiales de la jeunesse et livré des orientations à l'Église d'Amérique latine, son continent d'origine. Car si le premier voyage international de son pontificat s'adressait en priorité aux jeunes, l'ancien archevêque de Buenos Aires en a profité pour s'exprimer également au sujet d'une situation qu'il connaît très bien, celle du catholicisme latino-américain riche mais menacé. Le monde entier a pu observer ses premiers pas à l'étranger. Pour le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ce voyage, très suivi par les médias du monde entier, est un véritable succès.
C'est un bilan très positif, car non seulement le nombre de jeunes est énorme, mais aussi la participation et le sens des enthousiasmes, des réception du message du pape est vraiment très grand. Et je pense que les jeunes vont repartir de Rio avec une force, une espérance, une capacité d'aimer accrue et avec un enthousiasme d'être part de l'Église. Ça, c'est un des aspects que le pape a touché dans la dernière homilie. Vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas seul, vous allez comme communauté, comme personnes qui s'aiment et qui sont solidaires entre eux pour être aussi solidaires avec tous les autres.
L'évangélisation passe surtout par des témoignages de vie, par des gestes forts. Il y en a eu énormément cette semaine. Quels sont les gestes du pape François que vous retenez ?
Bon, naturellement, des gestes qu'il voulait dans les premiers jours pour faire comprendre que l'Église est une Église pour les pauvres et avec les pauvres. Il dit, pour comprendre bien la mission de l'Église dans le monde actuel, il faut partir de périphérie, il faut observer la situation du monde du point de vue des périphéries et des pauvres. Et naturellement, le pape a une capacité concrète d'utiliser un langage, d'utiliser des gestes qui touchent les jeunes pour leur spontanéité.
Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, interrogé par notre envoyé sur place, Olivier Tosseri. Au Brésil, le Saint-Père a prononcé 16 discours et posé des gestes spontanés qui ont touché les cœurs. Son gros cartable noir qu'il porte lui-même le plus naturellement du monde, la vitre de sa voiture baissée pour mieux saluer la foule, caresser les enfants, recevoir des lettres et des objets à bénir que lui tendaient les fidèles, ou encore un verre de maté, la boisson traditionnelle en Amérique latine. L'émotion qu'il n'a pas cachée lors de sa visite dans une favela, les cartoneros invités à le rejoindre sur le podium au cours du chemin de croix, ces chômeurs victimes de la crise de 2001 en Argentine qui récupèrent le carton ou autre matériel recyclable dans les rues des villes. Retour sur ce voyage avec Thomas Chabol.
Le premier pape latino-américain de l'histoire a prêché la solidarité, la rencontre et le dialogue contre la culture du rebut qui met à l'écart les improductifs et contre la logique du pouvoir et du gain à tout prix. Il a pris la défense de la famille, essentielle pour la survie de l'humanité, qu'on le veuille ou pas. Il s'est prononcé contre la libéralisation des drogues et en faveur de la justice sociale. Pour lui, les chrétiens doivent garder l'espérance, se laisser surprendre par Dieu et vivre dans la joie. Pour lui également, la foi est révolutionnaire et elle pousse les croyants à aller à contre-courant contre la culture du provisoire, à aller sans peur pour servir et pour déraciner le mal et la violence. Le pape François veut des disciples missionnaires qui n'aient pas peur de sortir dans la rue en faisant du tapage, une église qui évite le piège de la richesse, du confort et du cléricalisme, mais aussi des idéologies, faute de quoi elle se réduira à une simple ONG. « Je n'ai ni or ni argent », avait-il dit dans son premier discours, « j'apporte ce que j'ai de plus précieux, Jésus-Christ ». Et dans un tweet ce lundi, il écrit « Je suis de retour à la maison et je vous assure que ma joie est beaucoup plus grande que ma fatigue ».
Premier résultat direct de la visite du pape sur l'immense terrain qui aurait dû accueillir la veillée de prière et la messe conclusive, mais rendu impraticable par la pluie intense, seront construits des logements pour 20 000 pauvres à l'initiative de l'église et de la municipalité de Rio. Autre résultat direct, l'impact de ces JMJ sur les jeunes. Écoutez les réactions de quelques participants recueillis par notre envoyé sur place, dans l'ordre Aurélie de Rennes, Mariana de Paris, Sœur Guylaine, une Congolaise qui étudie à Rome, et le Père Sauzé du diocèse de Maurepas.
Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est quand il a dit que les jeunes qui étaient dans la rue en ce moment, qui manifestaient un peu partout dans le monde, c'était parce qu'ils avaient des revendications de base, qu'ils avaient besoin de choses et que... En gros, c'était aussi à nous d'y aller, à nous d'aller de l'avant, à nous d'oser faire des choses. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial que voilà, ils mettent un peu tout le monde sur le même pied d'égalité pour nous dire « allez-y, c'est vous la prochaine génération, c'est à vous d'y aller ».
Il a créé un lien avec la jeunesse, avec ses JMJ, un pape qui vient d'être élu et que les jeunes ont découvert.
Ouais, je pense qu'il a été assez proche des jeunes et que effectivement, ça a permis aux jeunes de mieux le découvrir et qu'il a été fortement apprécié pendant ses JMJ.
Qu'est-ce que tu rapporteras en France de ce JMJ ?
Je rapporterai en France physiquement des petites choses que j'ai échangées avec beaucoup d'autres volontaires ou pèlerins. Et je rapporterai aussi les images du pape et les images surtout de la foule qui a vraiment envahi Copacabana et qui a impressionné, même plus qu'impressionné tout le monde.
Et concernant le thème des JMJ, l'élan missionnaire, c'est quelque chose qui t'a donné envie de le concrétiser dans ta vie qui t'a donné envie justement de le mettre en œuvre, en pratique ?
Oui, alors peut-être pas forcément par rapport à l'Église en général, mais peut-être dans ma vie de tous les jours, par rapport à des petits gestes au quotidien. J'essaie de faire un peu attention, mais essayer de faire davantage.
Je pense que c'est l'évangélisation, il ne faut pas utiliser des mots énormes, parce que sinon ça fait peur. Donc c'est vraiment montrer que l'Église est là pour les autres, et c'est ce qu'il est en train, il donne l'exemple.
Pour évangéliser, il ne faut pas utiliser des grands mots. Il en a dit quand même beaucoup cette semaine, des mots, des discours assez importants, forts. Il y en a certains que tu as retenus plus particulièrement ?
Ben disons qu'encore une fois, ça reste simple. Ça peut être des mots, beaucoup de mots, mais c'est tout le temps à nous demander des choses simples, comme est-ce que vous vous rappellerez de votre promesse demain ? Vous dites que vous êtes catho, est-ce que demain vous saurez l'appliquer ? Est-ce que demain vous saurez encore me dire oui, je suis catholique ? Donc ça, il nous l'a dit. Et ça reste très simple, c'est des questions concrètes. C'est est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes présent ? Est-ce que c'est juste des images ou pas ?
Je suis très impressionnée, je suis très fière de ce pape parce que je le trouve qu'il est très proche du peuple. C'est lui le successeur de Pierre, c'est lui le vicaire du Christ sur la terre.
Il y a des gestes qu'il a fait, des paroles qu'il a dites au cours de cette semaine des JMJ qui vous ont marqué, qui vous ont touché particulièrement ?
Oui, en s'adressant aux prêtres, aux évêques, il a dit « Ne restez pas enfermés dans vos couvents, dans vos paroisses. Allez-y dans le monde. » Cet appel à la mission qu'il relance, c'est vrai que les prêtres, les évêques le savent, mais il a encore répété la même chose et ça résonne en moi, c'est très fort, quoi. Aller dans le monde parce qu'il y a les gens, tant de monde qui attend l'évangile.
On parle souvent de ce pape pour les gestes, pour l'émotion qu'il arrive à faire passer avec les foules. Vous avez été aussi touché par ses mots, par ses discours, pas simplement par son attitude et par ses gestes.
Oui, non seulement par le discours, aussi par les gestes. Un pape qui s'arrête, qui prend les enfants, les petits-enfants, qui embrasse, tout de suite là, il a pris, on lui a jeté un maillot, et comme un bon footballeur, c'est comme s'il c'était un sportif, et il a pris ça, c'était vraiment très bon, quoi. Et un pape qui enlace les gens, qui va dans les prisons, c'est vraiment ce qu'on doit faire comme témoignage, quoi. Aller vers ceux qui ont le plus besoin, parce que l'Église veut toujours être du côté des pauvres. Lui, il a visité les favelas, il a visité les malades à l'hôpital, il est allé dans les prisons. Voilà vraiment l'Évangile. Jésus avait dit, on doit être proche du plus pauvre.
Avec le pape Benoît XVI, on a eu un pape qui nous a aidé à entrer davantage dans l'intelligence de la foi. On a le sentiment maintenant qu'avec le pape François, il nous aide, une fois qu'on a creusé cette intelligence de la foi, à pouvoir la mettre en œuvre, notamment dans la charité. Voilà.
Avant de rentrer au Vatican, à son retour de Rio, le pape François a voulu se rendre à Sainte-Marie-Majeure pour remercier la Vierge. Le Saint-Père a prié en silence pendant une dizaine de minutes dans cette basilique romaine qui lui est très chère. À l'entrée, des jeunes lui ont offert un t-shirt et un ballon que le pape a laissé en hommage à l'icône de la Vierge, faute de fleurs. Il n'a pas pris l'hélicoptère depuis l'aéroport de Ciampino. Il est rentré à bord de la voiture qu'il utilise habituellement. Le père Basile a accompagné au Brésil une vingtaine de jeunes Français venant de Cognac en Charente. Avant les JMJ, ils ont passé leurs 2 semaines missionnaires à 3 heures de Rio. Ce prêtre de la communauté de Saint-Jean raconte son expérience dans sa famille d'accueil de Volta Redonda, une expérience de pauvreté et de joie.
Donc on était accueillis dans les familles, un contact avec la population, on ne peut plus proche, quoi. Même si l'obstacle de la langue a été vraiment une difficulté, parce qu'ils ne disent pas un mot d'anglais. Mais moi j'étais très touché par la première semaine à Volta Redonda parce que j'étais logé dans une famille tellement pauvre, quoi, que moi j'avais jamais côtoyé, jamais vu ça. Je pensais même que c'était une favela. Alors ils m'ont dit non, c'est pas tout à fait une favela, c'est un barrio, mais c'était très 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 simple. Par exemple, une des choses qui m'a vraiment étonné dans cette pauvreté, c'est il n'y a pas de porte aux chambres. Donc ça veut dire une promiscuité, ça veut dire un manque de lieu pour s'isoler, d'intimité, quoi. Et en même temps, c'était très digne, très propre, et puis une qualité d'accueil. Un peu les pauvres qui accueillent les riches, avec cette tellement de générosité, d'ouverture de cœur et de foi chrétienne, qu'on se dit, mais qui sont les vrais riches, qui sont les vrais pauvres?
C'est une dimension sociale qui n'existait pas, qui était moins forte quand on pense aux autres JMJ.
Alors oui, plus que les autres JMJ. Pour niveau contact, du côté brésilien, il y a une volonté d'accueillir manifeste, étonnante. Et en plus, en fait, on est venu comme missionnaire, mais en fait, on s'est laissé évangéliser, on s'est laissé toucher par ces gens qui ont une réelle pauvreté matérielle et qui pourtant ont... On a l'impression qu'ils ont quelque chose d'essentiel dans leur cœur. Alors, ils n'ont pas tout, hein. Il y a aussi beaucoup de souffrances qu'il ne faut pas se cacher. Mais il y a une réelle richesse étonnante qui vient de leur attachement à la foi chrétienne.
Qu'on a perdu en Europe, en général, en France en particulier?
Moi, je vois qu'il y a une nouvelle évangélisation en France, en Europe, et tant mieux. Donc, si les jeunes sont là aussi nombreux, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous. Mais oui, ça a touché les jeunes. Oui, ça a touché les jeunes. Oui, quand ils voient cette joie des JMJ, ils reviennent différents. Donc moi, je me donne beaucoup de mal pour amener des jeunes à chaque fois aux JMJ parce que je sais que c'est fondateur pour leur vie chrétienne, que c'est durable sur le long temps. Et au-delà de la fête et de la fatigue ponctuelle, il y a quelque chose qui est transformé parce qu'ils découvrent un nouveau visage de l'Église. Ou plutôt la réalité de ce qu'est l'Église, alors qu'ils avaient une image fausse de ce qu'est l'Église jusqu'à présent. C'est-à-dire, peut-être des églises un peu trop vides en France ou pas tout à fait de leur âge. Et bien là, ils découvrent ce qu'est l'Église réellement. C'est la fierté d'avoir découvert quelque chose de Jésus. C'est la joie de croire en Dieu. Et ça, c'est durable pour leur vie à eux, trouver le sens profond de leur vie, trouver un engagement dans leur vie chrétienne.
Le père Basile, un prêtre français qui s'est rendu à Rio pour les JMJ. J'ajoute, avant de refermer cette page, que dans une interview en toute simplicité dans un studio de la radio officielle de l'archidiocèse de Rio, le pape François affirmait que la radio catholique était aujourd'hui la tribune la plus accessible pour annoncer les valeurs humaines et religieuses et surtout pour annoncer Jésus-Christ et lui réserver une place dans notre vie. Le Centre Astalli des jésuites italiens dénonce les politiques scélérates responsables des tragédies des naufragés de la mer en Méditerranée. Des politiques criminelles, car ceux qui cherchent un refuge partiront coûte que coûte. Un nouveau naufrage a eu lieu vendredi soir au large des côtes libyennes. Jean-Baptiste Cocagne.
53 immigrés voyageaient à bord d'une fragile embarcation de fortune. 22 d'entre eux, seulement, ont pu être secourus par deux navires marchands. Les 31 autres sont morts noyés. Ils sont originaires du Nigeria, de Gambie, du Bénin et du Sénégal. Un autre bateau en difficulté, avec 16 femmes à bord, a été secouru dimanche. Le jour même, les autorités de l'île de Lampedusa ont annoncé avoir accueilli plus de 450 immigrés. Il y a actuellement 927 personnes dans le centre d'accueil, dont la capacité est de 250 personnes. Le père jésuite Giovanni Lamanna, directeur du centre Astalli, affirme que désormais les trafiquants sans scrupules sont le seul recours possible pour des hommes et des femmes fuyant les guerres et les persécutions. La vraie responsabilité de ces morts doit être imputée aux politiques criminelles qui continuent à ignorer l'évidence. Rien, pas même le danger de mort, ne peut décourager ceux qui n'ont plus rien à perdre. Pour le ministre italien de l'Intérieur, il est urgent d'arrêter le trafic des passeurs de la mort. Mais cela passe par un réseau de collaboration avec les pays de départ. De son côté, le gouvernement maltais a réclamé une intervention de Bruxelles. Pour le père Lamanna, au contraire, il faut créer des couloirs humanitaires sécurisés en Méditerranée. Depuis des années, les gouvernements s'obstinent à chercher des accords ou des politiques pour bloquer le flux inutilement. Le résultat, c'est un massacre incalculable d'innocents.
En plus bref, l'autorité d'information financière du Saint-Siège, l'AIF, créée fin 2010, a signé un protocole d'accord avec la Banque d'Italie pour coopérer dans la lutte contre le blanchiment d'argent. L'AIF a déjà signé des accords semblables avec 5 pays, dont les États-Unis et la Belgique. D'autres pays devraient suivre dans le courant de l'année. Après Benoît XVI, le pape François remet de l'ordre dans l'église. Au Cameroun, il a accepté la démission de l'archevêque de Yaoundé, Mgr Victor Tonier Bako. Il a nommé pour cet archidiocèse un administrateur apostolique cédé vacanté et ad nutum sancte cédis. Il s'agit de Mgr Jean Barga. Mgr Tonier a été accusé par les populations autochtones d'activités aphéristes incompatibles avec la foi, plus précisément d'avoir bradé le patrimoine foncier légué par leurs ancêtres. Par ailleurs, ces derniers temps, il n'a cessé de défrayer la chronique. Selon plusieurs articles de presse, il aurait, entre autres, fait main basse sur une société immobilière. c'est la fin de ce magazine, mais vous pouvez à tout moment retrouver toutes nos informations sur notre page internet radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.